Amen. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de notre Dieu dans l'Évangile de Luc au chapitre 19 et nous lirons à partir du verset 37 ce beau passage qui nous parle de louange et de reconnaissance fort légitime à l'égard de notre Seigneur. Luc 19, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus a été l'homme de douleur, c'est vrai, mais tous ceux qui ont examiné sa vie d'un petit peu, avec un peu plus de soin, ont pu remarquer qu'il avait dans son cœur un trésor inépuisable de joie céleste. Il est dit qu'il a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues. D'être engagé dans la plus bénie des œuvres, de voir, de discerner à l'avance par la foi les résultats de son travail, et même de voir autour de lui les fruits de son travail déjà au travers de toutes sortes de guérisons, de miracles, de signes, de résurrection des morts, eh bien tout cela donnait au Seigneur une joie, une satisfaction secrète et profonde. Et il y a eu quelques occasions où cette joie a été manifestée. À cette heure, par exemple, il est marqué, à cette heure, Jésus se réjouit en esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, etc. Voilà. Donc, Christ avait ses chants d'allégresse, même lorsqu'il a été dans la nuit profonde, il pensait à la récompense, au salaire, c'est dit dans Ésaïe chapitre 53, par exemple, c'est bien annoncé, prophétisé, et donc, il chantait ses louanges à Dieu au milieu de l'assemblée. Et en ceci, je dirais que le Seigneur Jésus est une image bénie de son assemblée sur la terre. Parce que en ce jour, c'est vrai, vous savez, le peuple de Dieu, il peut être dans le trouble. En tout cas, sur la terre, il y a bien des lieux où ceux qui marchent avec Dieu le font le long d'un chemin épineux, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions, beaucoup d'injustices. Et nous, même si ici, le temps dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous vivons, c'est quand même relativement tranquille que nous pouvons rendre un culte à Dieu en paix et en liberté. Eh bien, tous nos frères et sœurs sur la terre sont loin de bénéficier de conditions aussi favorables. Et il ne faut pas considérer ça comme quelque chose qui va de soi. Disons pas que ce sera toujours et automatiquement le cas. Il y a de temps en temps des alertes qui doivent nous rendre conscients, nous maintenir sur nos gardes. Vous savez qu'il y a toutes sortes d'accusations fausses et injustes qui ont été lancées contre une église évangélique au début de la pandémie. Même la préfète de notre région, de notre grande région, a dit des choses fausses, des choses injustes, dont elle s'est excusée après. Elle s'est excusée de tout après. Mais vous savez, les médias, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils ont retenu les accusations qui ont été lancées au début, et puis ils ont mis une mauvaise réputation injustifiée sur des évangéliques. Par contre, quand la préfète s'est excusée, je suis sûr que parmi vous, il y en a plusieurs qui ne savent même pas qu'elle s'est excusée. Donc, par exemple, même Olivier Véran était obligé de reconnaître qu'ils avaient parlé de façon injustifiée. Et j'entendais encore France Info, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, toute la journée, ils ont relancé de nouvelles insinuations à l'égard des évangéliques, donc à l'encontre de la réunion d'Assemblée Générale du mouvement Tzigane Vie et Lumière, qui donc avait rassemblé effectivement 700 pasteurs évangéliques, venaient de toute la France, mais c'était leur Assemblée Générale, c'était pour élire leur nouveau président, donc, et ils avaient pris toutes les mesures, ils avaient un grand chapiteau qui permettait toute la distanciation physique qu'il fallait, puisqu'il peut accueillir 10 000 personnes. Ils avaient obtenu l'autorisation des autorités, mais vous savez, toute la journée, ils ont relayé, j'ai entendu ça, des insinuations, des faussetés, quoi. Des insinuations, quand même. Vous savez, les calomnies, les accusations injustes sont jamais loin. Le diable essaie toujours de faire ce mauvais travail, et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste veillant, frères et sœurs. faut qu'on reste dans la prière, faut qu'on rachète le temps, faut qu'on saisisse les occasions d'œuvrer pour le Seigneur pendant qu'on en a encore la possibilité, parce que la nuit vient, où personne ne peut travailler, et en très peu de temps, les circonstances favorables pourraient être bouleversées. Alors, soyons-en conscients, attachons-nous fermement au Seigneur, ne nous laissons pas leurrer, ne nous laissons pas endormir par de fausses sécurités, et demeurons dans la gratitude, la reconnaissance et la foi, comme notre texte nous y invite. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut réaliser. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer, et puis d'autres encore, l'Église véritable a ses propres, je dirais, ses propres sources de joie, ses propres puits profonds de joie, dans lesquels il y a toujours une eau précieuse et une eau abondante, et tous les enfants de l'Église du Dieu vivant, eh bien, tout cela peuvent venir y boire. Il y a des réserves abondantes dans notre Jérusalem à nous, dans laquelle les saints de Dieu peuvent toujours trouver nourriture, peuvent toujours trouver réconfort. Et parfois, à l'image de notre Seigneur, eh bien, nous connaissons aussi de ces moments de délices intenses. Pourquoi ? Parce qu'il est un fleuve dont les eaux réjouissent la cité de Dieu, est-il écrit encore. Amen. Alors, nous sommes à une époque où nous pouvons nous réjouir en Dieu comme dans notre récit. Dans notre récit, nous voyons que le Seigneur allait à Jérusalem et que les disciples espéraient de tout leur cœur qu'il allait prendre le trône de David et qu'il allait installer ce royaume depuis si longtemps attendu. Et c'est avec raison, en tout cas, qu'ils poussent des cris de joie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est au milieu d'eux, le Seigneur lui-même. Amen. Et Jésus est au milieu de nous aujourd'hui. Alléluia. Nous pouvons le glorifier, le bénir. Il est au milieu de Dieu, de nous. Le royaume lui appartient. Par la foi, nous voyons déjà la couronne qui brille sur son front. Nous savons que toutes choses vont dans la direction pour que son royaume soit établi. Et en attendant, il a opéré aussi parmi nous de grandes choses, n'est-il pas vrai ? Nous avons vu de belles choses, nous avons vu des vies transformées, nous avons vu de grandes délivrances, nous avons vu des guérisons. Nous avons vu des signes, des prodiges, de merveilleux exaucements, et de grandes consolations pour nos affligés. Et le meilleur objectif que nous puissions avoir ce matin, c'est certainement d'éveiller nos cœurs à chacun, d'éveiller un esprit de sainte joie parce que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et que nous puissions l'accueillir de la meilleure façon, que nous puissions nous réjouir en lui, afin que pendant qu'il opère son œuvre de salut au milieu de nous, il ne puisse pas manquer de cette musique bénie pour le faire, cette musique que nos lèvres peuvent lui apporter. Amen. Alors nous observons quatre choses, Dieu voulant, dans notre texte. Déjà, en premier au verset 37, une louange de tout cœur et remplie de délices. Ensuite, au verset 38, un chant de louange tout à fait approprié à la situation. Ensuite, en troisième, il nous est parlé au verset 39 de ceux qui ont présenté les objections. Et au verset 40, vous avez l'argument imparable que leur a opposé le Seigneur. Donc, voilà quatre points. Donc, une louange de tout leur cœur est remplie de délices. Et dans ce verset 37 que nous voyons là, eh bien, nous pouvons bien discerner que chaque mot a son importance et mérite l'étude attentive de ceux qui veulent apprendre à magnifier le Seigneur. Notez tout d'abord que cette louange qui était rendue à Christ a été pressée, qu'elle a été rapide. Ils n'ont pas attendu d'être entrés dans la ville, il est marqué. Mais lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu. Amen. Et il est bon, mes frères et sœurs, d'avoir un œil rapide pour voir les occasions de gratitude envers le Seigneur. Vous savez, l'incrédulité, l'ingratitude sont aveugles, ne voient rien. Elles oublient les faveurs de Dieu et les laissent mourir et laissent mourir sans louange. Alors, vous savez, quand on peut bénir le Seigneur pour les grâces qu'il nous accorde, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, on en aura d'autres. Alléluia. Et je crois que trop souvent, il y a des réunions de prière qui sont là. Et c'est important que nous puissions prier, que nous adressions à notre Seigneur. Oui, que nous lui fassions des demandes. Mais est-ce que nous prenons le temps de le remercier ? Est-ce que nous prenons le temps de le louer ? Est-ce que nous prenons le temps de le bénir pour l'œuvre qu'il accomplit ? L'Église sait bien crier au Seigneur quand elle est dans le besoin, c'est vrai, mais est-ce qu'elle est muette lorsqu'il s'agit de faire monter un chant vers le Seigneur ? Bien souvent, vous savez, on s'aperçoit que des croyants n'ont pas rendu grâce pour les petites choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, même ces petites choses-là leur ont été enlevées et les âmes sont devenues vides et désolées pour ce qui concerne l'Esprit du Seigneur. Hein. Alors, bénissons le Seigneur pour toutes ces grâces qui sont répandues sur nous. Voilà, qu'il n'y ait pas besoin de nous rappeler deux fois, mais vraiment que nos âmes le louent, que nos âmes le louent alors qu'il s'approche de Jérusalem. Amen. Vous savez, la louange et l'action de grâce a d'excellents effets pour nous. Et je peux en noter toute une série. Et il est important de rappeler les excellents effets de la louange, du remerciement, et ceci donc au moins de cette façon. Ça nous bénéficie de cette façon. Premièrement, ça change notre état d'esprit. Ça nous fait voir les choses du bon côté. Hein, donc, c'est ce beau chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Prends le temps de les mettre devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alléluia. C'est vrai. Hein. La deuxième chose, c'est que ça ouvre notre esprit pour nous faire réaliser de mieux en mieux ce que le Seigneur a fait déjà pour nous. Et ça nous fait ne pas l'oublier. Et ça nous fait ne pas le minimiser. Et ça nous encourage à croire que le Seigneur va continuer à faire son œuvre admirable et la faire en nous et la faire autour de nous. Amen. Et puis le troisième bénéfice, ça ouvre notre esprit pour faire remonter à notre souvenir d'autres bénédictions que nous aurions peut-être eu tendance à oublier ou que nous n'avions peut-être même pas jusqu'à ce moment-là réalisé toute la portée. Et ça va nous faire méditer, avec reconnaissance sur les bontés de Dieu et nous faire saisir d'autant mieux que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, même ce matin. Alléluia. Oh, que ta fidélité est grande, dit le psalmiste dans ce moment-là. Et puis une quatrième chose, la louange et l'action de grâce vont de cette manière fortifier notre foi. Hein, c'est ça que ça va faire. La reconnaissance, c'est certainement un moyen majeur d'affermir la confiance en Dieu et nous allons être rendus capables, beaucoup mieux, de remporter la victoire dans l'épreuve, dans la difficulté et de voir la main puissante du Seigneur à l'œuvre en notre faveur. Amen. Et ça va donc nous aider, en cinquième, à prier avec beaucoup plus de force et de conviction dans tous nos besoins. Vous savez, un cœur indolent, ingrat, endormi, pris du bout des lèvres. Sa prière est faible, sa prière aura bien peu d'effet. Mais un cœur reconnaissant, il a une force. Il y a une force pour prier, de crier au Seigneur jusqu'à l'exaucement. Et il sera, il aura tout naturellement cette ferveur dont il est parlé dans l'épître de Jacques, la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Amen. Il pourra mieux saisir, beaucoup mieux, la promesse qui est contenue dans l'évangile de Luc au chapitre 18, « Et le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ?» Je vous le dis, il leur fera promptement, subitement justice. Amen. Et puis un sixième bénéfice, c'est que cela va disposer favorablement le Seigneur à notre égard. Parce que cette louange reconnaissante qui monte vers lui, eh bien, ce sera comme un bon parfum, un encens agréable dans ce sacrifice de prière et d'adoration que le fidèle veut faire monter vers lui. Amen. Hein ? Et puis la septième chose, bien, c'est que la louange change les choses. La louange change les situations, non pas la louange elle-même, mais c'est parce que Dieu, évidemment, c'est Dieu qui va les faire changer les choses. C'est Dieu qui va pouvoir bien disposer les personnes auxquelles nous avons affaire, les situations, les circonstances. C'est Dieu qui va ouvrir les bonnes portes et fermer les mauvaises portes. Hein ? Et c'est Dieu qui va faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Et c'est pourquoi ça, frères et sœurs, on ne dira jamais assez combien il est important, nécessaire, précieux, hautement bénéfique de cultiver un esprit de reconnaissance et de louange et de le faire aujourd'hui en particulier et de le faire de tout notre cœur. Amen. Ouvre ta bouche, mon frère, ma sœur, pour que Dieu puisse la remplir et que Dieu puisse se glorifier. Alléluia. Béni soit son nom. Amen. Donc voilà, eh bien, et puis, je reviens à mon texte, parce que ce qui nous frappe aussi, c'est que c'était une louange unanime. J'observe que non seulement la multitude, mais toute la multitude des disciples se réjouissait et l'adorait. Pas une seule langue silencieuse parmi eux qui retiennent son chant ou qui retiennent ses paroles. Et pourtant, je suppose que ces disciples avaient leurs épreuves comme nous les avons. Hein, je pense qu'il y en avait qui avaient des problèmes avec leurs enfants, peut-être. Hein. D'autres, il y en avait qui étaient pauvres. Hein, ils en avaient plus que nous, certainement encore aujourd'hui, avec toutes les tribulations que cela suppose. Ils avaient du mal à joindre les deux bouts. C'était des gens de la même nature que nous. Hein. Et donc, ils avaient aussi à combattre avec le péché dans leur cœur, comme avec les tentations de l'extérieur. Mais malgré tout cela, aucune de ces choses ne les empêchait de louer le roi en cet heureux jour. Amen. Amen. Eh bien, que nous, de la même façon, hein, que chacun, que toutes nos âmes eh bien, puissent se courber, se réjouir, bénir et glorifier ce Seigneur en se rappelant qu'il est glorifié, qu'il doit être glorifié au milieu de son assemblée. Amen. Amen. Que Dieu puisse faire son œuvre et que Dieu puisse se manifester. Je lisais une petite poésie, j'aime bien une petite poésie de temps en temps, sur la reconnaissance. Là, c'est le titre, c'est « Heure de soleil », heure au pluriel, heure de soleil. Ça parle d'un cadran solaire, avec l'image que ça représente. Il est tout dégradé, ce vieux cadran solaire. Effacé par le temps, il dort d'un bon sommeil. Mais on déchiffre encore ces mots gravés sur pierre. Je marque seulement les heures de soleil. Veux-tu nous enseigner, ô vieux cadran solaire, à laisser de côté les moments ténébreux, mais à nous souvenir de ces jours de lumière où nos cœurs ont battu, dilatés et joyeux? Comment faut-il s'y prendre, ô vieux cadran solaire, pour marcher comme toi sans s'égarer jamais? Car, sais-tu, trop souvent, nous faisons le contraire. Oubliant les beaux jours, nous comptons les mauvais. Nous comptons les mauvais, ô vieux cadran solaire. L'orage disparu, nous nous en souvenons. Tandis que nous avons la mémoire légère pour le rayon doré qui vient baiser nos fronts. Et nous vivons dans l'ombre, ô vieux cadran solaire. Nous portons notre vie ainsi qu'un poids pesant, et les fleurs du passé demeurent en arrière sans que nous les prenions pour orner le présent. Désormais nous voulons, ô vieux cadran solaire, adopter ta devise et suivre ton conseil. Au moment du nuage, espérer et nous taire et marquer chaque jour les heures de soleil. Amen. Amen. Eh oui, c'est vrai. Et puis ensuite, considérez aussi que c'était une louange de multitude. Et ça aussi, c'est à relever parce que l'Écriture nous dit que dans le ciel, des multitudes le loueront. Elle nous rappelle cela, parole de Dieu. Et quel merveilleux avant-goût, si déjà ici-bas, il peut en être ainsi sur cette terre. Toute la multitude. Et quelle bénédiction lorsqu'il y a une multitude qui loue le Seigneur. Hein, lorsque notre musique, lorsque notre chant, nos actions de grâce, nos actions de gloire aussi roulent vers le ciel comme un tonnerre. Et je sais qu'il y a bien des croyants, eh bien, dans de tels moments, dans de telles occasions, eh bien, ils ont véritablement été visités par le Seigneur et ils ont ressenti une joie et une gloire. Et je crois qu'il est bon et précieux de préparer ces moments où tous les croyants de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi seront assemblés sur les collines éternelles et qu'ils chanteront ce cantique éternel magnifiant par-dessus tout le Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus aime la louange de beaucoup. Il aime cela. Il aime entendre les voix de ceux qui ont été rachetés par son sang. Amen. Malgré le fait, remarquez encore, que malgré le fait que ce soit une multitude, voyez que cette multitude était tout de même choisie. C'était la multitude de quoi ? La multitude de quoi ? Oui ! La multitude des disciples. La multitude des disciples. Les pharisiens ne l'ont pas loué. Vous voyez bien, ils étaient en train de murmurer. Il faut que la louange vienne d'un cœur droit pour être valable. Et remarquez que ces disciples étaient de différentes sortes. Certains venaient juste d'être enrôlés dans l'armée du Seigneur. Ils avaient juste appris à s'asseoir à ses pieds pour écouter sa parole. D'autres avaient accompli des miracles en son nom. Et ils étaient destinés au ministère d'apôtres. Et ils avaient déjà annoncé l'évangile, la parole à d'autres, mais tous étaient des disciples. Et j'espère que parmi nous, il y a une majorité, j'aimerais pouvoir dire une totalité, mais une majorité de disciples en tout cas. Alors, je ne sais pas, que vous soyez venus à l'école du Seigneur depuis peu de temps, comme si vous y êtes depuis longtemps, donc vous qui êtes devenus des pères ou des mères en Israël, donc, et qui pouvez donc être un encouragement et un soutien pour beaucoup, en tout cas, toute la multitude des disciples, j'espère, va adorer Dieu, va louer le Seigneur, hein, et que chacun d'entre nous, sans exception, puisse véritablement faire partie de cette compagnie-là. Amen. Et voyez encore, il est marqué que toute la multitude des disciples saisit de joie. Ces gens sont remplis de joie. Hein, j'espère que la doctrine qui prétend que les chrétiens doivent être tristes va être bannie de l'univers. Hein. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui ait autant le droit d'être joyeux et autant de raisons d'être joyeux que les chrétiens. Hein, donc, et les derniers, tous les devoirs chrétiens, pardon, devraient être offerts joyeusement, mais bien sûr, tout spécialement, le travail qui consiste à louer Dieu. C'est Spurgeon qui, en son temps, faisait la remarque suivante. J'ai eu l'occasion d'aller dans des assemblées où le ton était morne au dernier degré, où le rythme de la musique était tellement lent qu'on se serait cru en train de sonner le glas à une marche funèbre, et qu'on se demandait si on arriverait un jour au bout du cantique. Où l'esprit des gens était si lourd, si mort, si triste, où les figures étaient si longues qu'on aurait dit qu'ils se préparaient à être pendus plutôt qu'à bénir leur Dieu. Bon, c'est peut-être une légère exagération, mais bon, voilà. Hein. Je voudrais vous lire une petite anecdote aussi, qui remonte à loin. Ça remonte au 19e siècle, mais voilà, ça se passait dans un hospice. Et donc, dans une ville d'Allemagne, un jour racontait le baron Jasper Dörtzen, qui est décédé à Hambourg en 1894. Donc, dans une ville d'Allemagne, se trouvait un hospice destiné aux vieillards infirmes. Et à l'ordre du jour, des conversations de la maison étaient les plaintes, les récriminations, roulant sur la nourriture, les lits, les chambres et mille autres détails, quand l'asile changea de directrice. La nouvelle venue, femme qui avait le cœur à la bonne place, commença par écouter sans mot dire. Puis, groupant autour d'elle les pensionnaires, « Écoutez, dit-elle, mes bons vieux, j'apprends que du matin au soir, vous vous plaignez de ce qui ne vous va pas. Continuez si vous le voulez, mais voici une proposition que je vous ferai. Qu'en pensez-vous si une fois par mois, à une heure fixe, vous cessiez vos murmures pour vous souvenir avec reconnaissance de tout ce qui vous reste de bon ?» Les malades, quoique un peu étonnés à la pensée qu'il pût y avoir même pour eux de quoi rendre grâce, consentirent cependant à la proposition de la sœur. Ce serait au moins un petit changement coupant la monotonie de leur vie, se dirent-ils. Le jour et l'heure fixée, tous attendirent, non sans une certaine émotion, le premier culte d'action de grâce. On chanta et la directrice prononça une prière. Prenant la parole, elle bénit avec effusion le Seigneur de toutes ses bontés pour l'âme et le corps de ses vieillards, des quelques forces qu'il leur avait laissées, des nombreux privilèges dont il les faisait jouir, de préférence à tant de pauvres privés de nourriture, de vêtements et de logements, et surtout de la miséricorde signalée qu'il leur avait témoigné à tous dans l'œuvre de Jésus-Christ, le Sauveur. « Quelqu'un d'entre vous aurait-il un mot à ajouter ?» demanda-t-elle après avoir fini. « Je suis certaine d'avoir oublié plus d'un sujet de reconnaissance. » Mais personne n'eut plus rien à dire et la réunion, qui avait à peine duré une heure, fut déclarée close. « Et voulez-vous que nous nous réunissions de nouveau dans un mois ?» fit la sœur avant qu'on se séparât. Un oui unanime partit de toutes les bouches. Chacun n'avait-il pas été frappé d'avoir découvert tant de choses dont on pouvait se montrer reconnaissant ? Au second essai, déjà, plus d'un membre de la société réunie dans l'hospice se souvenait de quelques détails passés sous silence la première fois, digne d'un mot de gratitude envers Dieu, et la sœur ne manqua pas de l'ajouter à sa prière. C'est ainsi que de mois en mois augmentèrent les sujets d'action de grâce. Bientôt, les vieillards eux-mêmes se dirent qu'on ferait bien de se retrouver plus souvent et pour le moins tous les 15 jours en la présence du Seigneur. Puis, jouissant de plus en plus du bonheur qu'éprouvait le cœur qui sait bénir son Dieu, ils proposèrent de marquer chaque semaine par un culte de louange et d'adoration. La sœur, cela va sans dire, se rendit avec joie à la volonté de ceux dont elle s'occupait. Et la maison bien vite changea complètement d'apparence. Disparu à très peu de choses près, les plaintes et les murmures pour faire place au contentement d'esprit et à la joie chrétienne. Et le remède, si efficace dans cet asile, ne serait-il pas excellent aussi, ailleurs aussi, au sein de telle famille, de telle association, de tel groupe d'infirmes et de malades? Voilà, hein, donc c'était une petite anecdote hein, qui, je crois, a toute son utilité. Ils furent saisis de joie, nous est-il dit dans notre texte. Et c'est vrai, vous savez, eh bien, c'est vraiment quelque chose quand on peut avoir cette joie et quand on peut la manifester. Vous avez certains, ils ont peur de l'exubérance, je ne sais pas, pensent que c'est une dangereuse folie, ils ont peur pour leur dignité. Ben, qu'ils la gardent, leur dignité, hein. Et puis qu'ils s'en revêtent, je dirais, comme d'un haillon misérable. Quant à nous, nous voulons être joyeux dans la louange de notre Seigneur. Amen. Et puis, c'était aussi une louange démonstrative. Il est marqué qu'ils se mirent à louer de Dieu, à haute voix. À haute voix. Hein. Vous savez, de tout temps, vous avez des gens qui ont objecté aux cris de joie et au Alléluia de Dieu, de ceux qui louaient Dieu de cette manière. Et leur esprit délicat trouvait ça très choquant, et je ne voudrais pas, quant à moi, me joindre à leurs objections, de peur d'être classé avec les pharisiens, dont il est dit là, maître, repends tes disciples. Hein ? Donc voilà. Alors au jour du Seigneur, eh bien, on voit que ces gens exprimaient leur joie vraiment comme ils la ressentaient. Alors je ne sais pas si c'est toujours très harmonieux, hein ? Peut-être, mais en tout cas, leur cri venait du cœur. Et ils louaient Dieu à haute voix. Amen. C'est Roveland Hill, hein, l'évangéliste anglais, qui en une occasion, c'était une salle qui était remplie de monde, et puis il y avait quelqu'un qui était assis juste derrière lui et sur les marches de l'estrade, et qui louait Dieu d'une voix aiguë, écrue, criarde, une voix de fossé. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Vraiment, il n'a pas pu supporter plus longtemps. Et puis il s'est penché vers la femme et lui a dit, « Est-ce que vous ne pourriez pas rester tranquille un petit peu ?» Elle lui a répondu, « Mais ça vient de mon cœur. » Ah, il a dit, « Oh !» Alors écoutez, non, continuez à chanter. Si ça vient de votre cœur, chantez aussi fort que vous voulez. Ah ben voilà. Hein. Et de même, même si quelqu'un souhaiterait qu'il y ait plus d'harmonie dans nos chants, dans nos louanges, eh bien il ne peut pas objecter si ça vient du cœur, parce que le Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur n'a pas objecté, est-ce que vraiment nous ne devons pas louer Dieu à haute voix ? Est-ce que les bontés de Dieu n'ont pas une voix forte ? Pour nous, hein, est-ce que sa grâce ne mérite pas d'être proclamée à voix forte ? La parole de Dieu nous rappelle que les cris de la croix ont été puissants, au point de briser même les rochers. Et notre musique à nous ne serait qu'un murmure, hein, nous qui sommes au bénéfice de tout cela. Donc, avoir une gratitude et une reconnaissance enthousiaste. Amen. Et puis, quoique cette louange soit très démonstrative, elle était cependant aussi très raisonnable. La raison est donnée, la raison c'est quoi ? Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Voilà ce qui est marqué. Alors, je ne sais pas tout ce que ces disciples avaient vu, mais en tout cas, il y avait eu bien des aveugles qui avaient été guéris, bien des sourds qui entendaient, beaucoup qui étaient possédés d'esprits impurs avaient été délivrés, des résurrections s'étaient produites, des guérisons miraculeuses de toutes sortes. Oui, c'est vrai. Et Dieu n'a-t-il pas agi de même au milieu de nous ? Je crois que parmi nous, il y en a plusieurs qui peuvent parler des prodiges, des réponses, des exaucements qu'ils ont vus de la part du Seigneur. S'ils se souviennent un petit peu, s'ils se retournent un petit peu, hein, ils ont pu expérimenter vraiment des choses merveilleuses. Hein, ce qui concerne justement des miracles et puis des gens qui ont été touchés, qui ont été transformés, qui ont été amenés au salut. Hein, certains qui étaient dans le désespoir, qui ont été puissamment réconfortés et tant d'autres choses. Ils avaient des raisons personnelles de le louer. Amen. Et oui, certains s'étaient convertis dans les mois passés. D'autres avaient vu, je ne sais pas, leurs enfants sauvés ou guéris. Ils avaient vu toutes sortes de réponses. Et puis voilà. Et puis, donc, nous avons vraiment des raisons de bénir le Seigneur. Que ce matin, il puisse aussi être dit en vérité. Toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Amen. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Ils sont plus courts les autres, hein, faites pas de souci. Donc, donc cette louange était un chant tout à fait approprié à la situation. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. C'était un chant qui était très approprié. Pourquoi ? Ben parce qu'il avait Christ comme sujet, déjà. Hein. Ce chant parle de Christ proclamé comme roi. Béni soit le roi. Ça, c'est le refrain. Et bénissons le Seigneur, nous aussi, en ayant ce refrain-là dans notre chant. Hein. Celui qui a été fils de Marie est aussi fils de Dieu. Alléluia. Celui qui montait un ânon sur ce qu'il était sur la terre, eh bien, il monte aussi les chérubins et il vole sur les ailes du vent. Hein. ils ont mis leurs vêtements sur le chemin, ils ont déposé des palmes, ils ont déposé des branches. C'était un humble triomphe, mais depuis longtemps, les anges avaient parsemé ces champs, son sentier de chants d'adoration. Et c'est pour ça, béni soit le roi. Que chacun loue en ce jour le roi divin. Si Jésus est vraiment votre roi, alors vous le ferez de tout votre cœur. Amen. Hein? Mais la grande raison de leur chant, c'était que ce roi était au milieu d'eux. Hein? Nous l'avons déjà dit, mais il faut y insister. La source, le centre de leur joie était là. Et bien aimé, notre roi est ici. Béni soit son nom. Hein? Et donc, par conséquent, eh bien, l'Église fidèle ne peut que se réjouir en lui et avec lui. Amen. Ce chant était également approprié parce qu'il avait Dieu pour objet. Nous le voyons. Hein? Ils ont béni Dieu en Christ. Lorsqu'ils ont ainsi élevé leur voix, ils ont dit « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Gloire dans les lieux très hauts. Et lorsque nous bénissons Christ, eh bien évidemment, nous bénissons aussi la majesté infinie qui nous a donné Christ. Hein? Donc, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, est-il marqué également. Et nous ne bénirons jamais assez celui qui nous a donné la grâce en Jésus-Christ. Et je poursuis en disant que ce chant était approprié parce qu'il avait l'univers entier comme but. Ça aussi, hein, ce n'est pas une louange entre quatre murs comme la nôtre ce matin, qui n'a pas moins de valeur hein, pour cela. Mais nous voyons que cette multitude chantait en plein air, avec rien d'autre comme mur que l'horizon, et pas d'autre toit que le ciel. Leur chant était, remarquez bien, « Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts ». Et ça ressemble singulièrement, je trouve, au chant des anges de Noël, rappelez-vous, hein, également ces esprits célestes qui ont chanté quand Dieu est né, mais il diffère. Pourquoi ? Parce que le chant des anges était paix sur la terre et celui aux portes de Jérusalem, c'est paix dans le ciel. Hein ? Donc on voit cela. Et je dirais que quelque part, c'est dans la nature du chant de se propager de lui-même et le chant sacré était descendu du ciel comme un feu, paix sur la terre, et maintenant ce chant commence sur la terre, paix dans le ciel, et il est projeté vers le ciel. Et il monte vers le ciel et il est reçu au ciel. Et vous savez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est quand même une grande merveille de se rappeler qu'un groupe de pauvres êtres comme nous peuvent changer des choses dans le ciel. Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que vous croyez cela ? Vous savez, c'est visible en plusieurs endroits de la parole de Dieu, mais spécialement dans l'Apocalypse, on le voit. Dans le domaine de la prière, de la supplication, de la louange, de l'action de grâce, notre prière peut avoir vraiment une grande puissance. Je lis par exemple dans le chapitre 8 et au verset 3 de l'Apocalypse, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Hein? Avec les prières de tous les saints. Avec les prières des saints. C'est dit deux fois. Hein? Donc nous voyons ici l'influence, la puissance des prières des saints. De tous les saints, frères et sœurs. Alléluia. De tous les saints. Ça nous est dit, répété, pour ceux qui auraient du mal peut-être à le croire. Il veut que cette influence est auprès de Dieu. Hein, déjà, puisque c'est vers lui que montent ses prières accompagnées de parfums. Et puis c'est une prière aussi, pour l'action divine sur la terre, pour parler aussi aux perdus, parce qu'il est question de voix, hein, ces voix ne sont pas pour rien, et puis pour les accomplissements prophétiques des jugements, comme on le voit d'ailleurs dans la suite avec les sept trompettes. Ces prières des saints ont vraiment une importance précieuse et puissante. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 10, je lis encore. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, premièrement à cause du sang de l'agneau, deuxièmement à cause de la parole de leur témoignage, troisièmement, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voyez la puissance de leur foi au sacrifice de Christ. Voyez la force de leur témoignage. Voyez la puissance de leur victoire par une vie entièrement consacrée au Seigneur. Et tout cela contribue très fortement à ce que le diable soit précipité du haut du ciel. Hein, vous voyez, c'est pas rien. C'est une grande puissance d'action jusque dans le ciel même. Amen. Hein. Et lorsque je lis encore, puis j'arrêterai après ce passage, dans Apocalypse 18, au verset 4, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. » Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Et là, ce qui est annoncé, c'est le jugement de la grande prostituée. Bon, la grande Babylone, ces choses se passeront après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement des croyants. Là, il est question de ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ, donc après l'enlèvement des croyants. Et la manière dont le discours du Seigneur est annoncé donc à ce peuple, c'est pour leur dire qu'ils vont avoir la puissance et l'autorité de participer aussi au jugement fort légitime, fort puissant de cette grande Babylone, de cette grande prostituée. En tout cas, en attendant, eh bien certainement, nous pouvons aussi louer le Seigneur de tout notre cœur et le bénir en sachant que cette musique que nous ferons monter vers lui par l'action du Seigneur Jésus-Christ sera bonne aussi pour d'autres mondes, des mondes célestes, des mondes divins, et que nous puissions de cette manière élever nos âmes vers notre Dieu. Amen. Et puis bien sûr, ce chant était approprié aussi parce qu'il était rempli d'un esprit de gratitude. Puisqu'ils sont là, ils crient à forte voix, « Béni !» Béni, oui, béni soit le roi. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Voilà, normalement non, on ne peut pas. Quand voulez-vous bénir Dieu? Ça voudrait dire qu'on est quelque part. Mais on le bénit quand même. Et on peut le bénir. Hein. Et on peut le bénir quelque part. Hein. On pourrait se dire, mais ce n'est pas possible que nous puissions rendre le Seigneur plus heureux qu'il ne l'est. Et pourtant, eh bien, qu'il puisse être exalté, qu'il puisse être élevé, qu'il puisse être de mieux en mieux glorifié. Il accepte cela comme effectivement quelque chose de précieux et que chaque croyant puisse se rendre de mieux en mieux compte de l'œuvre que Dieu a opérée pour nous en Jésus-Christ et qu'il continue d'opérer et de mener inlassablement. Amen. Et puis nous arrivons à notre troisième point. Vous avez ceux qui ont présenté des objections. Nous voulons les voir rapidement, ne voulons pas leur consacrer trop de temps. Maître, reprends tes disciples. Voilà, nous connaissons cette voix, le vieux grognement des pharisiens. Hein. Comment pourraient-ils faire autrement? Tels sont les hommes, telles sont leurs paroles. Et ils peuvent oser dire, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein. » Mais ils ne peuvent pas supporter de se joindre à d'autres hommes pour faire monter leur louange au ciel. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont objecté de cette manière? Pourquoi ont-ils objecté? Il y a déjà trois raisons qu'on peut trouver. Déjà, en premier, parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y aurait pas de louange pour eux-mêmes. Hein, déjà comme ça. Hein. Ah ben si la multitude avait dit « Oh, ces pharisiens bénis, quels excellents pharisiens !» Quel large phylactère, quels admirables vêtements religieux ils portent, avec quelle diligence et quel scrupule ils payent la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Quel miracle que Dieu nous permette, à nous pauvres et viles créatures, de regarder ces incarnations admirables de la vertu. Voilà, hein. Imaginons que les gens aient dit ça, alors il n'y aurait aucun pour dire à Jésus, maître, reprends tes disciples, hein. C'est clair, parce que vous savez, un cœur orgueilleux ne loue jamais Dieu. Hein. Il cherche toujours la louange pour lui-même. Voilà, bon, c'est tout. Après, vous avez une deuxième raison, c'est qu'ils étaient jaloux de ces gens. Au fond de leur cœur, ils étaient quand même jaloux. Ils n'étaient pas heureux eux-mêmes, ils ne pouvaient pas supporter que d'autres soient heureux. Et ça existe, vous savez. Hein. Souvenez-vous, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, la parabole du fils prodigue. Hein. Lorsque le fils prodigue revient, que le père est dans la joie, que tout le monde est dans la joie. Regardez le frère aîné. Regardez le frère aîné dans quel état il est, dans quel état d'esprit. Il s'adresse à son père, « Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Est-ce que c'était une raison pour que les autres ne soient pas heureux, hein? Pour que tout le monde tire la tête? Voilà, c'est une bien mauvaise raison en vérité. Si nous ne pouvons pas nous réjouir par nous-mêmes, eh bien restons quand même en dehors du chemin des autres. Hein. Si nous n'aurons pas de musique dans notre propre cœur, eh bien n'arrêtons pas ceux qui en ont une. Mais le point le plus grave, je dirais quelque part, le plus important, c'est qu'ils étaient jaloux de Jésus. Eh oui, ils ne voulaient pas voir Jésus couronné en majesté. Le cœur humain n'aime pas par nature voir Christ glorifié. Prêchez la moralité, prêchez une doctrine desséchée ou des cérémonies et vous aurez des tas de gens peut-être qui sont heureux de vous entendre, mais prêchez Jésus-Christ. Et certains diront, maître, reprends tes disciples. Et mes frères et sœurs, eh bien, ne prêchons rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ne disons rien ou pas grand-chose à propos de l'Assemblée, ni à propos des frères, ni à propos du serviteur de Dieu, mais louons Christ. Louons Christ, et je sais que les pharisiens ne l'aimeront pas, mais c'est une raison de le faire plus encore, parce que vous savez, quand le diable n'aime pas quelque chose, ben, il faut lui en donner. Hein, et puis, il faut lui en remettre. Et la prédication et la louange de Christ, c'est le fouet qui chasse le diable, ça. Ça, mes amis, hein, la prédication de Christ et sa louange, c'est l'éclair, le coup de tonnerre qui font trembler l'enfer. Hein. Alors ne soyons jamais silencieux et nous verrons la confusion de nos ennemis si nous louons Jésus comme Seigneur. Amen. Amen. Et puis, arrivons maintenant au dernier point, l'argument du Seigneur, cet argument qui est imparable. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et je crois, mes frères et sœurs, que c'est notre cas. Hein. Si nous ne louons pas Dieu, eh bien, c'est vrai que les pierres même vont crier contre nous. Nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Et malheur à nous si nous ne le faisons pas. Hein. Là aussi, il ne devrait pas nous être possible de retenir notre langue. Si nous avons été sauvés de l'enfer, est-ce que nous allons rester silencieux? Moi, je sais que j'étais sauvé de l'enfer, vous savez. Moi, j'avais peur de l'enfer. Vous avez peur de l'enfer, vous? Ça vous est arrivé? Ben moi, j'avais peur de l'enfer. Je ne voulais pas aller en enfer. Et quand le Seigneur a mis l'assurance du salut dans mon cœur, mais ça a été extraordinaire pour moi. Hein, donc voilà. Hein, comment en route vers le ciel et être ingrat? Ah, c'est pas possible. Hein, être racheté par le précieux sang de Jésus et retenir notre langue. Hein, être rempli du Saint-Esprit et ne rien dire. C'est pas possible. Arrêter le cours du Saint-Esprit dans nos vies par notre crainte des hommes. Si vraiment une œuvre de Dieu s'est faite en nous, on ne peut pas rester en se taisant, n'est-il pas vrai? Hein, donc voilà, là, que Dieu nous garde et qu'une telle pensée soit abandonnée au vent. Hein, si nous avons vu en plus encore toutes sortes de choses merveilleuses dans nos vies, où nous avons été témoins de choses que Dieu nous a donné le privilège de voir autour de nous dans d'autres vies, alors oui, c'est vrai. Alors là aussi, nous pouvons dire « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais les pierres pourraient-elles jamais crier? Oui, elles pourraient. Ben, si elles parlaient, elles auraient bien des choses à dire, les pierres, au sujet de leur Créateur. Et nous, à plus forte raison, qui avons été recréés, nous dont le cœur de pierre a été transformé en cœur de chair par l'action du Seigneur, n'est-il pas vrai que nous devrions aussi pouvoir parler? Les pierres qui sont là depuis dans des âges, viennent d'âges passés depuis longtemps et qui ont été témoins des œuvres de Dieu tout au long de la création, eh bien, elle pourrait en parler aussi. Et nous, est-ce que nous ne pouvons pas parler des décrets de Dieu, de ces grandes œuvres que nous rapporte la parole de Dieu, que nous rapporte l'histoire de tout ce qu'il a fait pour son Église, hein, pour les croyants? Si les pierres pouvaient parler, elles le feraient aussi au sujet de celui qui les a brisées, celui qui les a tirées de la carrière et rendues utilisables pour son temple. Et est-ce que nous ne pourrons pas parler, nous aussi, de celui qui nous a tirés de la carrière, qui nous a façonné, qui est donc en train de le faire d'ailleurs, pour que nous puissions prendre place en tant que pierre dans ce temple éternel, chacun, chacune à notre place. Amen. Hein, donc les pierres, on peut prendre. Si les pierres pouvaient parler, elles auraient une longue, longue histoire à raconter en ce qui concerne les souvenirs. Hein. Dans l'Écriture, il y a bien les pierres de souvenirs qui ont été dressées. Et nous aussi, nous devons avoir un souvenir. Ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Ne pas nous laisser aller. Voilà le confinement qui se passe. Et moi, je crains qu'il y ait des chrétiens qui soient en train de perdre l'engagement qu'ils avaient avant le confinement. Je ne vous cache pas. Et j'ai des signes qui me permettent de le discerner. Parce que oui, parce qu'il y a des œuvres qui peuvent se faire pour le Seigneur pendant que nous sommes là en ce moment. Et puis, je vois des gens qui s'en écartent. Je vois des gens qui ne le font pas. Ils disent, on ne peut pas, il y a le confinement. Alors qu'il y a des choses qu'on pourrait faire. Vous savez, si on aime Dieu, ben on fera tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Hein. Faut pas qu'on oublie cela, faut pas qu'on l'oublie. Et puis les pierres parlent encore, vous savez. Les pierres nous parlent à ce moment, depuis la systématisation des recherches archéologiques, de la science archéologique, combien les pierres parlent pour confirmer effectivement la vérité, l'exactitude de l'Écriture sainte. On pourrait en citer des quantités d'exemples. La découverte des ruines de la ville d'Ur, en Chaldée, par exemple, démontrant la réalité du contexte des origines d'Abraham. Ou bien les fouilles faites à Jéricho, qui montre que le mur d'enceinte de la ville, en ce temps-là, est effectivement bel et bien tombé vers l'extérieur, comme la Bible nous le rapporte, vous savez, du temps de Josué. Ou bien, à Bogatskoy, en Turquie, eh bien, on a découvert l'origine du peuple des Hessiens. Les Hessiens, jusqu'au XIXe siècle, des historiens disaient « Mais ça, c'est un peuple légendaire, ça n'existe pas, voyons. On n'a retrouvé aucune trace d'eux. » Pourtant, la Bible en parle. Régulièrement, elle en parle souvent. Hein. Et voilà qu'on a découvert un jour leur capitale. Et après, on a découvert toute une série, enfin, les ruines de leur capitale, bien sûr. Et puis, toute une série d'autres de leur cité, hein, qu'on a découvert aussi comme cela. La découverte bien précise de l'endroit où se trouvait Sodome, à la ville de Sodome, donc près de la mer Morte, avec encore des fondements de remparts et de maisons d'habitation dont les briques avaient été vitrifiées par la chaleur intense du feu du jugement qui a atteint la ville. Hein, ou bien au sommet du Mont Carmel, une découverte aussi rarissime, celle de pierres bleues vitrifiées, comme on en trouve sur certains sites d'explosion nucléaire. Et ça, ça nous rappelle, c'est le souvenir du feu intense que Dieu a envoyé sur le sacrifice d'Élie, dont il nous a dit qu'il a consumé la victime, le bois, l'eau et la pierre, et les pierres de l'autel. Hein, rappelez-vous. Et puis la découverte par Adam Zartal, l'archéologue, de l'endroit exact où le peuple d'Israël s'est rassemblé pour écouter la totalité de la loi de Dieu. Ça, c'est du temps de Josué encore, au pied du mont Garizim et du mont Ebal, avec les artefacts déposés exactement, disposés exactement suivant la description minutieuse que donne la parole de Dieu. Et de nombreuses découvertes à Jérusalem même, qui sont régulièrement faites. Il ne se passe pas un mois sans que de nouvelles découvertes soient faites dans ce sens-là, donc avec, qui sont autant de preuves de la vérité de l'Écriture sainte. Et donc, on pourra en énumérer encore bien d'autres. Et toutes ces pierres sont là, elles nous crient. Elles nous crient que cette Bible qui nous parle tant de Jésus est exacte, qu'elle est fiable, qu'elle est véridique, et tout ce que tout ce qu'on peut vérifier correspond parfaitement à la vérité, à la réalité. Et que donc notre foi en Jésus, notre foi au message biblique, a des fondements assurés et pleinement dignes de confiance. Amen, amen. Alors les pierres peuvent crier. Les tables de pierre ont été brisées, les tables de pierre de la loi ont été brisées contre nous. Mais Christ, lui, a roulé la pierre. La pierre loin de l'entrée du sépulcre, pour que ça parle en notre faveur. Les pierres peuvent crier, mais nous ne les laisserons pas faire. Hein, nous ne laisserons pas faire et nous voulons étouffer leurs cris par nos propres cris, par lesquels nous bénissons la majesté et nous bénirons la majesté du Très-Haut durant notre vie, durant. Voilà, et que spécialement ces moments puissent être aussi à sa gloire. Amen, amen. Te remercions, te glorifions, Seigneur notre Dieu. C'est encore toi le fidèle, le tout-puissant. Toi encore le Dieu agissant, le grand Dieu d'amour, Seigneur. Et quel privilège de pouvoir encore te louer et te glorifier de tout notre cœur. Voulons encore le faire maintenant, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Amen, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelques annonces. Sinon, la réunion de prière a lieu mercredi à 20h15. Il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance pour y participer. Je vous rappelle la prédication du vendredi soir en ligne avec l'évangélisation, l'édification. Nous envisageons de distribuer les traités à Chalon à partir de demain avec les nouveaux traités. Il y aura possibilité de s'inscrire. Nous envisageons des baptêmes le mercredi 28 au soir. Voilà. Et puis, je voudrais vous dire aussi, faire un tout petit bilan, c'est-à-dire, nous avons fini la semaine dernière d'accomplir l'objectif que nous étions fixés au début de l'été, c'est-à-dire couvrir l'agglomération chalonnaise, donc la ville, plus Compertrie, Fagnières, Saint-Mémy, Saint-Martin-sur-le-Pré, avec des invitations en boîte aux lettres. Alors, les résultats, en demande de renseignements, en demande de Bible et en contact, ont été très encourageants. Hein. Et oui, que soient remerciés donc tous ceux qui ont pu y prendre part et qui y ont persévéré. Voilà. Nous envisageons une autre distribution avec notre nouveau traité, les nouveaux horaires de réunion, parce que nous croyons que la période est favorable à l'Évangile, hein, très favorable. Vous avez des gens qui se posent vraiment des questions. Et c'est le meilleur moyen que nous ayons pour l'instant de faire un travail systématique d'ensemencement de l'Évangile. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est marqué « Dès le matin, sème ta semence, le soir ne laisse pas reposer ta main, parce que tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Hein ». Donc, la semaine qui vient, donc, nous envisageons de faire un effort particulier de distribution. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, eh bien, peuvent le faire sans tarder pour que nous puissions organiser éventuellement les équipes de distribution par quartier. Ceux qui veulent prendre en charge un quartier dont ils s'occuperont à leur convenance, sur leur propre disponibilité, peuvent le faire aussi. C'est aussi quelque chose qui est possible. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne et vous accompagne.